Aujourd'hui, nous avons ce miracle de la résurrection de la fille d'un chef de synagogue qui est décrit de manière plus abondante que saint Matthieu dans saint Luc. Et nous avons aussi la guérison de cette femme qui avait un flux de sang depuis 12 ans. Aujourd'hui, nous sommes invités par saint Paul à faire confiance et à nous unir pour obtenir ces grâces. C'est toujours un peu la même question. Ces miracles, comme une résurrection d'un mort ou comme une guérison instantanée d'un mal incurable, nous impressionnent, nous accompagnent, mais nous sommes peu nombreux à avoir été témoins de ces miracles. Nous savons que des personnes ont bénéficié de ces grâces par l'intercession de saints qui ont été notées et relevées par des instructions ecclésiastiques diocésaines pour des béatifications et des canonisations. Mais il est bien évident que si Dieu fait des miracles et refera encore des miracles, nous avons toujours la même nouvelle venant des prêtres qui nous disent « Mais surtout, la guérison de votre âme, la bonne santé de votre âme vaut mieux que la bonne santé de votre corps. » Mais nous sommes un peu déçus de cette réponse et nous cherchons une aide concrète et visible et palpable de Dieu. Pourtant, c'est bien la raison pour laquelle Dieu fait des miracles, mais pas en très grand nombre, qui est le cœur même de sa volonté, de notre santé spirituelle. Il nous soutient par ce que nous entendons et qui est authentifié par l'Église. Il soutient notre foi et notre espérance. Mais, en effet, nous avons parfois cette curiosité de nous informer de tel ou tel miracle qui ont eu lieu et qui n'ont pas été forcément reconnus par l'Église. Alors posons-nous la question de cette guérison spirituelle. Cette guérison spirituelle, on la trouve particulièrement dans une prière très sincère. Lorsque, même si nous n'avons pas de consolation toute particulière et si nous ne ressentons pas la présence de Dieu, cette foi du charbonnier qui fait que nous croyons, que nous parlons ou que nous pensons et que quelqu'un nous entend, c'est parfois sec, mais c'est vrai. Aussi vrai que nous nous parlons les uns aux autres avec des sons formés par notre bouche, nos poumons. Nous entrons en relation les uns avec les autres, car contrairement à ce que des escrocs vous promettent, il n'y a pas de transmission de pensée. Les âmes ne se révèlent pas leur fort intérieur, leur pensée intérieure, par une sorte d'illumination ou de pensée qui va d'un corps à l'autre, d'une âme à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons parfois seuls, car comme nous ne savons pas ce que les autres pensent, et que notre connaissance même est limitée, c'est la source de beaucoup de querelles ou d'incompréhensions, par définition. Et nous ne comprenons pas les intentions, et nous n'avons pas tous les éléments et toute la vérité sur ce que la personne veut nous dire. Et pourtant, Dieu nous demande d'entrer en relation avec les autres, de parler sincèrement. Pas toujours, et cela complique les choses. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et nous n'avons pas à révéler notre vie intime et personnelle à n'importe qui. Il nous est difficile, parfois, de garder des secrets de notre vie personnelle, et nous cherchons un ami, une amie, parfois dans notre famille, mais parfois à l'extérieur, pour se confier. Eh bien, la prière est une confidence. Voyez cette femme qui, depuis 12 ans, avait cette maladie. Elle a confiance que quelqu'un d'autre existe et qui va la guérir. Saint Luc nous dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent avec des médecins qui ne l'avaient pas guérie et qui même avaient empiré son état. Ça, c'est Saint Luc qui le dit puisqu'il était médecin, donc il est sévère avec les médecins. Et voyez-vous, le miracle qu'elle obtient, elle le veut parce qu'elle croit que Jésus peut la guérir. Elle croit en quelque chose ou quelqu'un qui est hors d'elle-même. Elle croit en Dieu. Et ceux qui accueillent le Christ ne croient pas que Jésus puisse ressusciter cette petite fille morte depuis quelques heures. Une heure. Il va ressusciter un jeune homme qui est mort depuis un jour. Il va ressusciter un homme de 50 ans, mort depuis 4 jours. Alors, les exégètes et les modernistes vont vous dire « Elle n'était pas morte, justement. » Mais le témoignage de tous ceux qui, les pleureuses et les joueurs d'instruments, qui se moquent du Christ, le fait même que ceux qui connaissent le corps humain, et à l'époque on mourait beaucoup, et les jeunes mouraient beaucoup, de discerner ce moment de la mort, le Christ vient la ressusciter. Et pourtant, ici, c'est presque une prière désespérée de son Père. Mais le peu de foi qu'il a va contribuer à cette grâce. Eh bien, à quel moment Dieu nous demande cette confiance ? Eh bien, d'abord dans notre prière individuelle. Il faut un moment, même si on n'a pas du roudoudou et qu'on ne ressent pas la présence de Jésus, doux et humble de cœur, nous devons à un moment donné croire, véritablement, que quand on nous dit qu'on est le fruit du hasard et du temps qui passe, c'est faux. Et qu'il y a un être intelligent qui nous a créés avec toutes les lois naturelles qui sont en nous et en dehors de nous. Et que cet être, on peut lui parler comme on se parle les uns aux autres. Et de croire qu'il peut nous écouter. Et qu'il n'est pas un distributeur de miracles, mais qu'il est un Père avec aucun défaut et une paternité et une bonté exceptionnelles, et qu'il nous écoute vraiment, qu'il va nous tirer vers le haut, et parfois par les cheveux, pour nous éviter de tomber dans des trous, pour nous porter. Et il va même faire quelque chose d'étonnant, qu'il a fait par son Fils. Il va nous demander de prier devant témoins. La confession est une prière de regret où nous reconnaissons nos torts et nous le faisons devant un témoin. Cela nous coûte, mais c'est vrai. Ça authentifie notre prière. Et le fait même que le prêtre soit tenu au secret absolu donne à cette prière toute sa mystique. Je vous avouerai que j'ai du mal à me confesser à de jeunes prêtres. et que je me confesse souvent à des prêtres âgés. Par orgueil, par regard de l'autre, alors qu'il est tenu au secret, alors qu'il ne fait que représenter le bon Dieu, quelle que soit la justesse de ses conseils, quelle que soit sa bonté ou sa douceur, ou sa mauvaise humeur ou sa rudesse, c'est à Dieu que je parle, et lui il est témoin. Voilà ce qui nous demande d'avoir confiance. Et saint Paul nous le dit doucement et fermement. Lui qui était arrivé à un cœur à cœur avec le Christ, qui était au-delà de toute sensiblerie, mais en même temps, c'est bien lui qui a dit « Il m'a aimé le premier ». C'est bien lui qui a dit « Je complète en mon corps ce qui manque à la passion du Christ ». C'est bien lui qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et d'offrir sa vie pour ses frères, comme aujourd'hui, il demande à deux dames chrétiennes de se réconcilier, comme il évoque Clément, qui sera le troisième successeur de Pierre et qui a connu saint Paul, et qui sera pape à Rome, l'un Clément. Tous ces hommes qui ont espéré, toutes ces femmes, tous ces enfants, martyrs de sang ou martyrs de vie quotidienne, de persévérance et de confiance. Demandons à la Vierge Marie, en ce mois d'octobre, d'avoir cette intelligence de la prière. Pourquoi on nous propose, parmi les prières les plus sincères et les plus directes, le chapelet? Eh bien, cela nous donne la possibilité de répéter, non pas des sons magiques, mais des paroles authentiques et qui renforcent notre foi, qui nous tirent de notre lassitude et qui nous poussent à poser un acte alors qu'on n'en a pas forcément envie. Et cela nous tire de notre quotidien, ce chapelet. Offrons-le. Et la Vierge Marie dira à son fils, « Voilà, je te présente la prière de mes enfants, de tes frères et sœurs. Accompagne-les, tire-les, même si tu ne les guéris pas, même si tu ne leur trouves pas un emploi ou un appartement. Console-les en vérité, donne-leur la foi et l'espérance et la charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »